L'édifice sauvé, on ne peut pas forcément tout garder. Et puis, où trouver l'argent, c'est tout le défi que tente de relever notamment notre invitée. Bonjour Ingrid Caillé-Rousset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de la Fédération des associations patrimoniales de l'Isère. On va revenir sur votre rôle, votre fédération. D'abord, cet exemple de Grèce en Vercors dont on parlait, est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt au fond? Derrière l'église sauvée de Grèce en Vercors, est-ce qu'il y a des dizaines d'édifices en difficulté?
Bien sûr, effectivement, il y a énormément d'éléments qui sont aujourd'hui en danger et qui nécessitent d'être sauvegardés, préservés ou en tout cas mis en valeur. Effectivement, cet exemple, il met en lumière la problématique du patrimoine religieux en Isère, mais aussi au niveau national, puisque c'est une action qui est portée pas uniquement sur notre département.
Mais c'est selon vous les édifices les plus en difficulté, les édifices religieux?
Alors, c'est pas forcément ceux qui sont le plus en difficulté, c'est peut-être celui qu'on voit le plus, oui. Parce que les villageois ou même les habitants des grandes villes sont toujours très attachés à leur église, à leur chapelle.
On va au Standard de France Bleu Isère rejoindre Jean Bernard. Bonjour monsieur Bernard.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Grèce Cœur à Cœur. Vous avez participé à la mobilisation autour de la chapelle de Grèce en Vercors. Expliquez-nous un peu comment vous avez réussi à obtenir ces fonds et à construire cette mobilisation.
Eh bien, tout d'abord, les dégâts constatés au niveau de l'église de Grèce là, qui ont motivé la décision de fermeture du maire, ému et mobilisé beaucoup de citoyens. Et devant l'amplitude, devant la nécessité, l'importance des travaux qui sont à réaliser, eh bien, il y a eu une mobilisation de tous les habitants.
Et c'est ce qui a fait la différence, selon vous, qui vous a permis d'obtenir cette subvention de la Fondation du patrimoine?
C'est effectivement la mobilisation autour de ce projet. L'église est centrale dans le village. Quand on arrive à Grèce-en-Vercors, on passe forcément devant l'église, soit en venant, soit en repartant. C'est le centre de la vie du village avec les concerts, avec les cérémonies qui ont lieu, enfin, qui n'ont plus lieu actuellement, mais qui mobilisent vraiment tous les citoyens.
Et début des travaux au mois de juin, c'est ça?
Alors, les débuts des travaux sera plutôt début septembre.
D'accord.
Actuellement, donc, les travaux ont été planifiés. Et on est très satisfait de la mobilisation de tous les citoyens pour les dons qui ont été faits.
Et qui ne sont pas finis, je crois. On peut encore donner.
La collecte continue, bien évidemment. Le montant total du projet représente à peu près 1,5 million d'euros. Il va s'étaler sur plusieurs années. Et donc la contribution de tous les citoyens est importante et doit durer.
Et est encore la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup Jean-Bernard d'avoir été en ligne avec nous, président de l'association Grèce Cœur à Cœur. Notre invitée ce matin est la présidente de la Fédération des associations patrimoniales de l'Isère, Ingrid Caillé-Rousset. Est-ce que cet exemple de Grèce en Vercors montre l'importance de la mobilisation citoyenne? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait la différence dans les projets et dans les financements?
Oui, complètement. L'exemple, il est très significatif ici. Il a très bien été expliqué par le président de l'association. Une action qui marche, c'est une action qui est conjointe, portée par les habitants, bien sûr. Une association patrimoniale, nous, en tant que fédération d'associations du patrimoine, effectivement, on est là pour les soutenir, les aider, les conseiller. Mais effectivement, c'est cette interaction entre habitants, villageois, associations porteuses, mais également collectivités, commune, municipalité qui est souvent la propriétaire du site ou de l'élément en question, qui fait que l'action fonctionne. Qu'il y ait une tripartite, on va dire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de mobilisation suffisante des citoyens, il n'y a pas d'aide quasiment.
Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'aide, c'est que les souscriptions sont plus difficiles à être portées derrière. Des aides, il y en a, effectivement, des aides de l'État, des aides du département. Chez nous, en Isère, on a un département qui a la chance d'avoir une politique patrimoniale très forte, mais c'est au niveau de la souscription et de l'élan solidaire que l'action au niveau du terrain est importante avec les villageois.
Et des habitants isérois mobilisés par le patrimoine, on en a aussi au standard de France Bleu Isère.
Oui, ce qui nous permet de vous rappeler que vous pouvez nous appeler pour justement venir participer à ce débat au 04 76.
Donnez vos exemples, appelez à la mobilisation autour
de vos édifices. Et ben voilà, si vous avez envie de passer un message pour dire nous on a besoin d'aide, souvent des concerts, vous faites des événements, voilà, vous nous appelez. Marie-Chou nous appelle d'Alvar, bonjour Marie-Chou.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour.
Vous parlez des vitraux des églises, dites-nous tout.
Alors oui, dans notre petit coin là de paradis de Belledonne, en fait, il y a eu plusieurs mobilisations ces dernières années. Il y a eu donc l'église de Saint-Pierre d'Alvar, où il y avait eu une souscription il y a quelques années pour refaire les vitraux. Alors je ne sais pas d'où venaient les autres financements, mais c'est clair que la souscription est importante, et je rejoins tout à fait ce que disait votre invité. Il y a une forte mobilisation des populations, les gens sont attachés à leur village, ils sont attachés à leurs églises. Donc il y a eu l'église de Saint-Pierre d'Alvar et puis il y a eu aussi les vitraux de l'église de la Ferrière. Donc en parallèle des souscriptions, il y a effectivement des événements qui sont organisés, mais c'est vraiment un élan commun qui permet de faire vivre ce patrimoine.
Donc les vitraux ont été refaits, hein, c'est ça Marie-Chou?
Oui, tout à fait. Et actuellement, donc dans ce même ordre d'idées, il y a une croix, la croix du Léa, qui est en cours de réflexion, de qui va être complètement repensée. Et la commune de Pinceau-Aubréda a lancé une souscription. Donc voilà, j'invite tous les gens qui sont attachés à Belledonne et puis à nos petits villages de montagne, voilà, de se joindre à ce bel élan.
Eh ben, écoutez, on a noté
le message du passé.
Alvar, effectivement.
Merci Marie-Chou de nous avoir appelé.
Bonne journée.
Bonne journée à vous. Alors, on peut retrouver cette mobilisation sur la page Facebook.
Effectivement, on a Corinne de Saint-Étienne de Saint-Jean qui nous dit qu'il y a une petite chapelle dans son quartier et que les habitants font tout pour la restaurer, qui financent les travaux eux-mêmes et qu'ils demandent des subventions également aux collectivités. Après, d'un autre côté, on a Sandrine qui est comptable dans une mairie et qui dit qu'effectivement, vu le budget des mairies, c'est parfois compliqué de sauvegarder justement ce patrimoine.
Ingrid Caillé-Rousset, présidente de la Fédération des associations patrimoniales de l'Isère, qui aujourd'hui finance les rénovations du patrimoine. Est-ce que c'est l'État, la Fondation du patrimoine, le département? Vous avez dit qu'il y a une mobilisation importante. Qui aujourd'hui finance cette restauration?
Alors effectivement, vous avez cité les trois acteurs principaux. Dans l'ordre, effectivement, on part de la commune, hein, puisque la commune aura toujours une partie à sa charge, puisqu'elle est souvent la propriétaire d'un site, en tout cas pour les édifices publics. Après, quand on est sur des édifices privés, effectivement, c'est autre chose. Donc la commune aura toujours effectivement une part. Et après, effectivement, en montant les échelons, on a le département qui aide à différentes hauteurs en fonction du fait que le bâtiment soit classé, inscrit monument historique, ou labellisé patrimoine en Isère, qui est un label spécifique que l'on a chez nous, qui identifie certains bâtiments caractéristiques du patrimoine de
local,
l'Isère,
d'accord.
Et qui font que, de ce fait, ils ont aussi une petite enveloppe complémentaire de soutien. Et après, effectivement, on a la Fondation du patrimoine et des dispositifs particuliers de l'État.
Parce qu'on entendait dans le journal tout à l'heure de 7h30, le maire de Notre-Dame-de-Lauzier, qui lui est un peu démuni parce que sa basilique du 19e siècle n'est pas classé.
Oui.
Donc on est un peu dans une zone grise, là, visiblement. La commune, ils sont que 11 conseillers municipaux, ils n'ont pas forcément le temps de remplir des dossiers énormes et ils ne se sont pas classés. Là, c'est une grosse zone grise qui est un peu compliquée.
Alors, c'est effectivement une problématique, quand on est sur un édifice de ce type-là. Après, effectivement, il ne faut pas qu'ils hésitent à être soutenus et relayés, notamment auprès de structures comme la nôtre qui peuvent être force de relais, en tout cas, pour pouvoir soutenir. Mais c'est souvent des projets qui sont effectivement très longs, parce qu'il y a énormément de dossiers à monter.
On va y revenir sur votre rôle, parce que votre fédération est assez unique en France. On va y revenir. On fait d'abord un petit tour au standard de France Bleu Isère.
Oui, on continue de retrouver des illustrations, finalement, de tout cela. On a Serge avec nous de Sihan. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour.
Alors, Sihan, c'est juste à côté du Grand Lens, mais vous vouliez nous parler d'une église à Lyon, c'est ça?
À Lyon, voilà, j'ai vécu 60 ans à Lyon, ça fait 14 ans que j'habite à Sihan, et c'est une église baroque qui a été restaurée uniquement par la commune de Lyon, voilà, qui est très belle et qu'on peut visiter. Voilà.
Et c'était, est-ce qu'il y avait eu, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, une participation populaire, dirons-nous,
citoyenne?
Non, c'est.
C'est la ville qui avait tout géré.
Voilà, c'est la ville qui avait tout géré pendant 2 ans. Les travaux ont duré 2 ans. Ils ont restauré d'abord la façade et puis entièrement rénové l'intérieur de l'église Saint-Bruno, voilà, avec les 8 chapelles sur les côtés, à gauche et à droite. Ils ont restauré la nef aussi, ils ont tout restauré. Enfin, c'est vraiment une chose à voir.
Hein. C'est quelque chose qui vous semble important, Serge, de sauvegarder le patrimoine?
Ah oui, très important, oui.
Qui n'est pas forcément possible pour toutes les communes. Église, Lyon a les moyens, en tout cas.
Voilà, j'ai été marié dans cette église, ma soeur aussi, mon frère aussi.
Qui avait un lien particulier, oui.
Voilà, on comprend l'attachement. Oui.
Merci beaucoup, Serge.
Ça tient à cœur, oui.
Merci de votre bonne passage. Bonne journée à vous.
On peut peut-être prendre Gilles, qui attend aussi au standard.
Gilles, qui est de Corbelin. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Ingrid.
C'est bien parce que avec vous, on va pouvoir revenir aussi sur un patrimoine important chez nous, puisque vous vouliez nous parler du patrimoine olympique.
Oui. Alors, le patrimoine, à quoi ça sert? Un arbre sans racines meurt. Et les villages, les villes, on est tous accrochés à notre patrimoine. Grenoble a un patrimoine olympique tout à fait extraordinaire, puisque les 10e Jeux olympiques se sont déroulés à Grenoble. Et on est tous à la fois amoureux de ce patrimoine, surtout si on le mettait en valeur, et surtout de son utilisation. Parce que quand une église, une cathédrale comme celle de Paris est remise en état, des millions de personnes vont aller la voir. Ils en seront amoureux. Et le patrimoine reste cette richesse qui nous relie à la culture, à la beauté.
Est-ce que, Gilles, ce patrimoine olympique, il est suffisamment mis en valeur, conservé à Grenoble, selon vous?
Ben écoutez, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de sortir, vous allez vous promener dans le parc olympique Paul Mistral et vous verrez à quel point il est dans un état déplorable. Donc, tapez sur Internet, sur tous les sites olympiques du monde, les 49 villes qui ont organisé des Jeux olympiques, et vous verrez qu'il y en a 48 qui ont un patrimoine qui est mis en valeur, seul celui de Grenoble.
Pas forcément le nôtre.
Ah ben c'est même le moins beau, enfin le moins beau. Avec nos montagnes, avec la verdure, on reste quand même dans un lieu tout à fait agréable, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Voilà.
Écoutez, Gilles, la sonnette d'alarme a été tirée. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.
Ingrid Caillé-Rousset, présidente de la Fédération des associations patrimoniales de l'Isère, est en studio avec nous. Je voulais revenir rapidement sur votre fédération qui est assez unique en France. Vous rassemblez une centaine d'associations patrimoniales. Vous êtes deux fédérations comme ça en France?
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. La FAPI est une fédération qui regroupe une centaine d'associations, une vingtaine de propriétaires privés à peu près, unique en France effectivement, avec une autre qui est celle des patrimoines des Pays de l'Ain. Donc on est toujours dans notre région, mais qui a un fonctionnement légèrement différent de la nôtre, avec des salariés notamment et des objectifs légèrement différents des nôtres.
Et donc on peut se tourner vers vous si on a un édifice à sauver, se renseigner en tout cas.
Complètement, on est une porte d'entrée et on a régulièrement tous les jours des sollicitations, alors par mail, par téléphone, par le biais de notre site internet.
Tous les jours.
Alors, régulièrement, oui. D'accord. Et qui vont d'une sollicitation pour ce qu'on appelle du patrimoine de proximité, on l'a pas évoqué, mais tout ce qui va être lavoir, bassin, fontaine, puits, petite borne devant laquelle on peut passer régulièrement sans y prêter attention, mais qui a une importance pour une histoire locale, à des choses beaucoup plus conséquentes, effectivement, comme le patrimoine olympique, comme l'a évoqué Gilles tout à l'heure.
Et on mettra les coordonnées de votre fédération sur francebleu.fr. Merci beaucoup, Ingrid Caillé-Rousset, d'avoir été notre invitée ce matin. Belle journée.
Merci de nous avoir invités.
Et merci à Marie-Chou, Serge ou encore Gilles d'être intervenu, de nous avoir laissé des commentaires sur la page Facebook également. Vous pouvez réécouter tout cet échange sur notre site internet. Dans